Le théâtre de Katsu accueille du 14 février, en fait depuis le 14 février jusqu'au 14 mars, la pièce « Ah, ta gueule, l'obscurité ». J'aime ça, ça me permet de dire des choses que je pourrais pas dire en ondes. Alors, vous avez entendu justement la comédienne, une des interprètes, la comédienne Rosalie Leblanc, avec qui on va jaser de cette pièce. Bienvenue à l'émission,
merci,
Rosalie.
Merci, merci. Puis juste pour préciser, en fait, on commence demain, donc du 24 février au 14 mars.
Ah, j'avais une faute sur ma feuille.
Pas donc, de souci, hey, aucun problème.
Merci. Non, mais c'est bien de corriger quand on se trompe, là, puis on n'est pas à l'abri de ça. Alors, juste rappeler que c'est une pièce qui est écrite par le dramaturge britannique Sam Steiner. La pièce, donc, c'est la première œuvre de cet auteur qui est produite à Montréal. Puis là, je vais quand même donner quelques détails pour qu'on puisse parler d'autre chose. La traduction québécoise est signée par Maxime Allen, qui avait également traduit la pièce précédente de la compagnie qui s'appelait LG.
Oui,
Elgi.
Ou Elgi, Elgi. Ouais.
Le théâtre à l'eau froide, j'aime bien le titre de cette pièce, de cette compagnie, célèbre sa deuxième année en résidence au Katsu avec cette production, mise en scène de Daniel Damour. Comédie noire qui nous transporte dans un centre d'appel à l'aube de la fin du monde. J'en dis pas plus. Rosalie, bienvenue donc encore à
Merci
cette émission.
Beaucoup.
Pour commencer, comment décrirais-tu l'ambiance qui règne dans ce centre d'appel alors que l'air extérieur devient irrespirable et que les ponts s'écroulent?
Bien, c'est ça qui est particulier. Puis on est vraiment dans une dramaturgie britannique parce que malgré l'espèce de noirceur, finalement, de cette prémisse-là, bien, il y a énormément de lumière puis énormément d'humour, en fait.
Ouais.
Fait qu'on suit quatre bénévoles, donc des gens qui n'ont rien à voir là, dans la vie, qui se côtoient juste dans ce lieu-là, finalement. Puis c'est vraiment leur rencontre, en fait. Donc, on a une espèce de John, un espèce de gars très pessimiste, en fait, très lucide, dont le regard sur le monde est très sombre, mais donc ça l'empêche parfois un peu de connecter parce que quand il n'y a pas d'espoir, bien, ça sert à quoi de lier des relations. On a un Julien, en fait, qui a 17 ans, qui est très, très jeune, donc qui débarque là-bas, qui se fait un peu materner par mon personnage, qui est Sophie, qui est la responsable du centre, qui est en fait tiraillée entre la vision de Sophie, qui est très positive, optimiste, qui essaie de voir le beau, et celle de John, qui est très sombre. Puis on a le personnage interprété par Romy Bouchard, qui s'appelle Camille, qui est vraiment mystérieuse, elle est vraiment dans sa tête, elle a une vie très, très riche et très étrange aussi. Donc, c'est vraiment la rencontre de quatre solitudes un petit peu, mais ça se fait avec beaucoup de lumière, beaucoup d'humour aussi.
Alors là, j'ai juste entendu la description de ce que moi j'appelle une comédie de mœurs où ce sont les personnages et non pas les situations qui font que c'est drôle. On est vraiment dans l'humour britannique. Et
100%.
Ça se rapproche de nous autres au Québec, j'ai l'impression.
Ah, 100%. Puis c'est ça la force aussi de la traduction de Maxime Allen, c'est qu'il arrive à prendre la langue britannique, mais là, sa traduction québécoise, c'est plein de québéquismes qui sont vraiment tellement le fun à jouer, en fait. On est dans une langue extrêmement parlée, très, très, très punchée. Donc ça, c'est vraiment le fun parce que c'est très vivant, en fait. Je pense que les gens vont s'entendre sur scène.
Oui, parce que les Britanniques ont cette idée, hein, ils amènent les choses à l'extrême. On pense que c'est la joke qui est finie, mais il continue encore, c'est à peu près ça.
Oui.
J'ai hâte de voir ça. Je pense que je vais la semaine prochaine voir cette pièce. La pièce est écrite comme une partition musicale polyphonique, ça, je reprends le communiqué qu'on m'a envoyé, où vous gérez parfois trois conversations en même temps. Oh, c'est vraiment britannique, ça.
Ah oui, bien, c'est un engrenage, là. C'est-à-dire que dès que la première réplique se dit, bien là, c'est un feu roulant un petit peu. Donc,
ouais.
Ça exige un rythme, ça demande une écoute aussi des autres qui est vraiment particulière parce que, justement, tu sais, la pièce commence, on est trois personnes au téléphone et on a aussi des conversations entre nous. Donc, tu sais, le texte, là, quand on le lit, il est divisé en trois colonnes.
Ah,
donc, ça demande vraiment une mécanique. Tu sais, c'est très exigeant là, comme comédien, cognitivement, de jouer ce texte-là, mais c'est tellement agréable une fois qu'on l'a. Puis les conversations téléphoniques se répondent. Donc, moi, je réponds à une personne, mais ça fait écho à ce que quelqu'un d'autre est en train de dire sur le plateau.
Wow.
Donc, c'est vraiment une symphonie.
Ça doit demander toute une discipline de travail. Là.
Oui, tu sais, pendant longtemps, les comédiens étaient comme, c'est une énorme partition, en fait. C'est une chance de jouer ça, mais tu veux bien le rendre aussi sur scène, tu sais.
Puis, il y a les rires, quand on joue, il y a les rires des spectateurs qui vont arriver là-dedans. J'espère que ça ne va pas trop déconcentrer les gens, mais je pense que vous êtes habitués. Hein?
Exactement. Bien, on a un bon public en répétition déjà, fait qu'on gère ça là, pour l'instant.
Le texte aborde des thèmes très personnels, comme la maternité, la santé mentale, au milieu d'une catastrophe globale. Alors, comment ces enjeux intimes résonne-t-il avec l'effondrement du monde extérieur? Parce que je comprends bien, ça se passe pendant que c'est la fin du monde, pratiquement. Là.
Exact. Bien, c'est ça, on n'en sait pas beaucoup hein, sur cette fin du monde-là, le texte. Fait que si vous êtes des grands fans de dystopie, là, par exemple, vous n'en saurez pas beaucoup sur ce qui arrive à l'extérieur. On sait que Brossard est rendu une île, fait qu'on imagine qu'il y a une montée des eaux. On sait que les ponts sont tombés.
On l'a vraiment adapté, là.
Oui, oui, exactement. Okay. Ça se passe vraiment à Montréal. Fait qu'on n'en sait pas beaucoup. Donc, la seule chose à laquelle on a accès, finalement, c'est à la réaction de ces personnages-là. Donc, moi, par exemple, je joue Sophie, la responsable du centre, qui est enceinte de 7 mois, puis on comprend que ben, ça fait des années, en fait, que les gens font plus d'enfants, vu l'état du monde, mais elle, elle porte cet enfant-là, puis les autres bénévoles trouvent ça étrange qu'elle ait fait ce choix-là, le questionnent, ce choix-là. Donc, elle, elle porte ce désir-là, finalement, de transmettre, de vivre la maternité, mais dans un monde où tout s'écroule. Fait qu'il y a quelque chose de très étrange. Tu sais, j'ai l'impression que les gens, au début, pensent qu'elle est un peu dans le déni de la situation. Mais en tout cas, moi, je m'identifie beaucoup à ce personnage-là, personnellement, parce qu'il y a quelque chose de, ben la vie continue.
Ouais. Tu sais? C'est intéressant, parce que justement, j'allais aller là. C'est donc les personnages qui évoluent au sein d'une équipe de 4 bénévoles, dans un centre d'appel. D'ailleurs, là, je te dis tout, j'ai la tête pleine de questions, mais un centre d'appel, 4 bénévoles, alors que le monde s'écroule. C'est quelle sorte de dynamique là, vous voyez, là, vous faites là-dedans? Là?
Oui, bien, premièrement, c'est ça, c'est un centre d'appel, mais c'est une ligne d'écoute. Fait que, tu sais, on s'imagine que, justement, dans ce monde-là qui s'écroule, des gens en détresse, bien, il y en a énormément.
Ah, oui. Donc,
je pense. Exact. Je pense à un moment, par exemple, où le personnage de Camille est au téléphone avec une très jeune fille de 16 ans, en fait, puis on comprend que cette jeune fille-là a perdu complètement espoir, puis ça fait écho avec le personnage de Julien qui a 17 ans, qui lui vient justement répondre aux appels téléphoniques. Donc, il y a comme quelque chose de très chargé quand même. Puis justement, on passe d'un humour très tranchant à des moments de connexion humaine, de simplicité, de vérité qui sont vraiment, je pense, assez bouleversants. Là, en tout cas, nous, de l'intérieur, c'est comme ça qu'on le vit. Puis, tu sais, ça nous touche encore après autant de répétitions. Le metteur en scène aussi, l'équipe du 4 sous. Fait que je pense que les spectateurs vont être touchés de ces relations-là qui sont un petit peu improbables, mais qui sont vraiment magnifiques. Puis finalement, je pense que c'est ça l'espoir que porte un peu la pièce, c'est de se dire, ben ensemble, tu sais, on est des humains, puis il y a un désir d'humanité, il y a un désir de rencontre, de réel dialogue. Je pense que ça, c'est très fort dans la proposition.
Encore une fois, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on est tellement dans l'actualité. Ce besoin d'humanité, présentement, c'est pas rien, là.
Oui, c'est ça, mais en même temps, on peut se dire que c'est peut-être un peu naïf, des fois, de se dire, ah ben on a besoin d'humanité.
Ça l'est pas.
Non, c'est ça. Bien, il y a toutes sortes de luttes, hein. Ouais. Autant les luttes militantes sont ultra importantes, on n'est pas du tout là-dedans dans ce texte-là, non. On n'est pas dans quelque chose de frontal. On revient plus aux humains dans cette lutte-là du quotidien, de il faut continuer à vivre, il faut continuer à se parler, à essayer de se comprendre.
Faire preuve d'humanité, ce n'est pas naïf. Alors moi, je le dis à cette antenne, ce n'est jamais naïf de faire preuve d'humanité puis de chercher à retrouver cette humanité. Le titre, « Atelier l'obscurité », j'ai lu que c'était donc tiré d'une réplique de Charlie Brown.
Oui.
Suggère donc une forme d'optimisme dont on vient de parler. Est-ce qu'on pourrait dire que les personnages font preuve de courage ou de déni?
Ah, c'est un mélange des deux, je pense, parce qu'il y a des moments où on sent le déni, mais il y a des moments où les masques tombent, en fait, puis on arrive dans leur vérité, leur désespoir. Même mon personnage qui est très positive, là, elle craque à un moment. En fait, dans la ligne de tous les personnages, il y a une espèce de masque social. Hein? Donc, même pour John, qui est le pessimisme, bien, en fait, son pessimisme, sa lucidité l'empêche, en fait, d'être en contact à certains moments avec la vraie détresse qui l'habite, puis son vrai regard sur le monde. Fait qu'autant dans l'optimisme que dans le pessimisme, finalement, il y a une forme de déni du sentiment intérieur, en fait. Fait que je pense qu'ils font preuve de beaucoup de courage, là, parce que le décor aussi agit comme personnage dans la pièce. Fait qu'il va vraiment être mis à mal, ce décor-là, j'en dirai pas trop. Mais on sent que ça devient presque impossible, en fait, pour les personnages de venir travailler dans ce lieu-là, mais ils persistent. Donc, ils reviennent semaine après semaine, même si on sent que l'état du monde se dégrade, même si on sent que l'état du bureau est plus fonctionnel, ils décident de revenir, fait qu'ils font preuve de courage puis d'un désir très fort, en fait, d'aider les autres.
Tu as tellement répondu à plusieurs questions que ça donne, mais non, c'est correct, hein? Mais je vais quand même revenir sur le décor, parce que j'ai l'impression que ce décor-là joue un rôle, puis comment il influence le jeu, ton jeu à toi pendant la représentation?
Oui, c'est ça. Bien, tout d'abord, je veux dire que c'est un décor de Caroline Bourgon-Sicard, oui. Puis c'est Mayumi Hyde-Bergeron qui a fait les accessoires, parce qu'il y a énormément d'accessoires aussi, ils sont super importants, mais... C'est ça, tu sais, on parlait de polyphonie au début, puis d'une espèce de partition musicale. Le décor participe beaucoup à ça. Moi, personnellement, je joue la responsable de la ligne d'écoute, donc je suis aussi responsable de l'espace. Donc, ça devient, oui, au niveau des voix, une espèce de polyphonie, mais avec le décor aussi, donc on joue vraiment avec lui, on l'habite vraiment, on mange pendant le spectacle, tu sais, c'est très... Il y a quelque chose de quand même... c'est très théâtral, mais il y a quelque chose quand même de très réaliste au niveau du lieu. Puis je pense que même quand toute l'équipe du Katsu a vu le décor, c'est un décor qui est vraiment grandiose. Mm-hmm. Moi, même à l'école de théâtre, où on a les budgets sont plus grands parce que c'est les étudiants qui font les décors, donc il y a moins de main-d'œuvre, etc. J'ai jamais joué dans un décor qui est aussi... qui est aussi grand, qui est aussi prestigieux, tu sais, il y a une mezzanine, tu sais, il y a des escaliers, donc il y a plein de petites cascades aussi dans le spectacle, donc c'est vraiment un plaisir. C'est ça, c'est comme quand je parlais de l'engrenage au début, c'est ça, dès que ça commence, là, c'est un engrenage tant physique qu'au niveau de la parole.
Ouais, alors des cascades.
Ouais, ben des petites cascades.
Ouais, quand même. Pas de danger de se casser une jambe ou un pied comme est arrivé à Guillaume Lambert?
Non, quand même, mais quand je répétais une micro-cascade que j'ai à faire, j'ai fait la référence, j'ai dit j'espère que je vais survivre à la pièce, mais finalement ça va très bien.
Ah, moi, j'en ai
c'est
vu,
très sécuritaire.
J'en ai vu à Agamemnon in the Ring, là, je me suis dit mais comment ils font pour pas se péter la gueule parce que c'était des cascades.
Oui, ben c'est de l'entraînement, hein, c'est ça, vraiment.
En tout cas, vous autres, j'en reviens pas. C'est des répétitions après répétitions. Écoute, ça fait donc un petit bout de temps que vous répétez. Vous êtes prêts pour la première demain. Qu'est-ce que tu souhaites que les spectateurs retiennent ou quel message tu voudrais qu'ils retiennent ou qu'ils prennent avec cette pièce?
Je pense qu'il faut accepter d'être en contact avec notre vulnérabilité en ce moment. Puis, au-delà de ça, je pense que... on partage un même sentiment en ce moment sur l'état du monde. Fait que je pense qu'il faut essayer d'être ensemble, de le partager, puis essayer de se comprendre. T'sais, on évolue beaucoup dans des chambres d'écho. Puis c'est ça qui est beau à travers ces quatre personnages-là qui sont de divers horizons, c'est qu'ils arrivent à se rencontrer, à se parler, puis à s'aimer. Un peu comme une famille maladroite, là.
Ouais.
Fait que je pense que c'est ça, comme allons vers les autres.
Ce qui n'est pas toujours facile ces jours-ci. Rosalie Leblanc, merci beaucoup. Je rappelle que donc tu vas être sur scène à compter de demain avec la pièce « À ta gueule, l'obscurité », une production du théâtre « À l'eau froide ». On a-tu le temps? Oui, on a le... C'est quoi? Pourquoi ce titre-là, « À l'eau froide »?
Je pense que je ne suis pas membre de la compagnie. Là. Elle est composée de Daniel Damour, le metteur en scène, Karianne Héroudani, Étienne Marquis et Hélène Rioux. Mais je pense que c'est vraiment le désir de se pitcher un peu dans l'inconnu.
Bonne douche d'eau froide.
Exact.
Hein?
Puis avec la dramaturgie étrangère sur laquelle il travaille, c'est toujours ça, donc c'est de découvrir des nouvelles affaires sans avoir peur là, du petit frisson initial que ça provoque.
Donc c'est présenté au théâtre donc de Katsu à partir du 24 février, demain. J'ai la bonne date là-dessus jusqu'au 14 mars. Merci beaucoup.
Ben, merci à toi.